Au micro, Idrissa Sedoudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. En Éthiopie, les forces des autorités dissidentes du Tigré ont gagné du terrain mardi au lendemain de la reprise de la capitale régionale Mekele. Elles ont appelé à chasser, je cite, les ennemis de cette région septentrionale en guerre depuis bientôt 8 mois. Les rebelles ont poursuivi leur progression malgré l'annonce hier lundi soir d'un cessez-le-feu unilatéral par le gouvernement éthiopien après la perte de la principale ville tigréenne, un tournant majeur du conflit. Les États-Unis ont accueilli hier l'annonce de cette trêve avec prudence. Ce pourrait être une étape positive si elle était suivie de changements sur le terrain en vue de mettre un terme au conflit et aux atrocités et de permettre une assistance humanitaire libre, a indiqué Ned Price, porte-parole du département d'État, plaidant pour un cessez-le-feu immédiat, illimité et négocié. Nous reviendrons sur le Tigré en seconde partie de cette édition avec Abdulrahman Dia. Le royaume d'Eswatini impose un couvre-feu, l'armée déployée contre des manifestations. John Linden fera le point. En Afrique du Sud, l'intouchable ex-président Jacob Zuma a finalement été condamné ce mardi à 15 mois de prison pour outrage à la justice après de multiples tentatives et stratagèmes pour éviter de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'État. À noter que ce 30 juin marque aussi le 30e anniversaire de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Un reportage de notre correspondante Valérie Hirsch en seconde partie de cette édition. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution rédigée par la France prolongeant jusqu'au 30 juin 2022 sa mission de casque bleu au Mali. Il a simultanément insisté sur un retour du pouvoir aux civils et la tenue d'élections générales le 27 février. Il est également demandé au secrétaire général de l'ONU un rapport au plus tard le 15 juillet au vu de l'insécurité croissante et des violences physiques exercées contre les civils dans le centre du Mali, avec des recommandations sur un éventuel renforcement de la MINUSMA. Le FMI a annoncé hier une aide économique massive au Soudan avec un allègement de dette de 50 milliards de dollars qui consacre la sortie du pays de son isolement financier et politique, entamé avec le soutien de Washington après la fin de l'ère Omar el-Béchir. L'OMS a déclaré qu'elle a porté son soutien aux 5 derniers pays, Burundi, Érythrée, Haïti, Corée du Nord et Tanzanie, qui n'ont pas encore lancé leur campagne de vaccination contre le COVID-19, alors que la planète a passé mardi le cap des 3 milliards de doses de vaccins administrées. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a limogé plusieurs hauts responsables qu'il a accusés d'être responsables, sans autre précision, d'un grave incident lié à la pandémie de COVID-19, dont Pyongyang n'a jusqu'à présent pas reconnu la présence sur son territoire. La Chine est parvenue à éradiquer le paludisme après 70 ans de lutte contre cette maladie transmise par un moustique, a annoncé aujourd'hui l'OMS. Le paludisme a fait plus de 400 000 morts en 2019, majoritairement en Afrique. Le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, a inauguré mardi aux Émirats arabes unis la première ambassade d'Israël dans le Golfe lors d'une visite officielle inédite pour un ministre israélien depuis la normalisation des relations l'an passé. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a salué une inauguration historique. L'Allemagne, l'une des puissances occidentales les plus engagées en Afghanistan, a annoncé mardi soir que toutes ses troupes avaient quitté le pays dans le cadre du retrait accéléré des contingents de l'OTAN, dont celui des États-Unis, déjà largement effectif. Plusieurs dizaines de personnes sont décédées subitement depuis lundi dans la région de Vancouver, au Canada, un pic de mortalité vraisemblablement lié au dôme de chaleur historique qui frappe l'ouest du Canada et des États-Unis. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia.
La suite de nos informations. Fin de cavale pour le leader indépendantiste Biafré Nnamdi Kanu. Il a été arrêté dans un lieu inconnu et ramené au Nigeria alors que le sud-est du pays est secoué par des violences. Précision d'Abdourahmane Dia.
Nnamdi Kanu a été présenté hier mardi devant la justice qui a autorisé son incarcération. Son procès pour terrorisme doit se tenir au mois de juillet. Selon Aboubakar Malami, ministre de la Justice et procureur du Nigeria, cité par l'AFP, le chef de l'IPOB a été arrêté le 27 juin en collaboration avec des services de sécurité d'un autre pays qui n'a pas été nommément cité. Il est accusé de s'être livré à des activités subversives, notamment des incitations à la violence contre l'État nigérian et ses institutions à travers des messages diffusés à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux, a ajouté le ministre. Nnamdi Kanu avait été arrêté une première fois en octobre 2015. Il était accusé de trahison, mais avait profité de sa liberté sous caution pour quitter le Nigeria avant de réapparaître 12 mois plus tard à Jérusalem, puis en janvier 2019 en Grande-Bretagne. Il était resté introuvable pendant 3 ans, des rumeurs le situant alternativement en Angleterre, en Israël ou même caché au Nigeria. Durant sa cavale, Nnamdi Kanu publiait quasi quotidiennement sur Twitter ou lançait des appels à l'indépendance sur Radio Biafra, une radio en ligne.
Le royaume d'Eswatini a décrété un couvre-feu nocturne et déployé l'armée dans les grandes villes pour réprimer les manifestations pro-démocratie. Le point avec John Linden.
Les manifestations sont rares en Eswatini, un petit état enclavé connu sous le nom de Swaziland. Les partis politiques y sont interdits, mais ces dernières semaines, de violentes manifestations ont éclaté dans certaines régions contre la dernière monarchie absolue d'Afrique. Des témoins dans les deux principales villes, Manzini et Mbabane, déclarent avoir vu des soldats patrouiller dans les rues où les manifestants avaient brûlé des pneus et caillassé des voitures. À Manzini, des employés d'un restaurant se sont retranchés dans l'établissement sans pouvoir rentrer chez eux. Plusieurs sources ont également fait état des pillages et d'incendies à Matsapa, une zone commerciale à l'ouest de Manzini. Selon le secrétaire général du Front démocratique uni du Swaziland, plus de 250 manifestants ont été blessés par balles. Le premier ministre Temba Mazougou a lancé un appel au calme. Il a nié les rumeurs selon lesquelles le roi Mswati III aurait fui. Le souverain est dans le pays et continue à gouverner, a-t-il précisé.
Le président américain Joe Biden se rend ce jeudi à Surfside en Floride, une semaine après l'effondrement d'un bâtiment dans cette ville. Bilan 12 morts et 149 personnes toujours portées disparues. Les questions se font de plus en plus pressantes sur les causes du drame, Jacques Aristide.
Accompagné de son épouse Jill Biden, le président américain entend remercier les équipes de secouristes qui travaillent sans relâche et rencontrer les familles forcées d'endurer cette terrible tragédie, a indiqué Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche. L'attente est interminable dans cette petite ville de Floride, proche de Miami, où les nouvelles continuent de tomber au compte-gouttes. Hier, les autorités n'étaient pas en mesure de donner un bilan actualisé de leurs recherches, malgré les efforts acharnés de 210 secouristes. De grandes grues sont utilisées pour retirer prudemment les débris. Plus de 1300 tonnes de béton ont déjà été fouillées. Les pompiers travaillent nuit et jour. L'espoir s'amenuise à mesure que les jours passent. Parmi les personnes toujours portées disparues figurent des dizaines de latino-américains originaires d'Argentine, de Colombie, du Paraguay, du Chili et de l'Uruguay. D'après les autorités, l'enquête pour connaître les causes exactes de la tragédie durera probablement des mois.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le gouvernement togolais a débuté le processus de construction de mairies dans 25 communes des 5 régions économiques. Le projet est financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA par la Banque allemande de développement dans le cadre de la phase 3 du programme d'appui à la décentralisation. Un appel d'offres pour la réalisation des travaux a été lancé par l'Agence d'exécution des travaux urbains du Togo. Le leader mondial de l'intelligence géospatiale Esri a conclu un protocole d'accord avec l'université Ibn Zohr d'Agadir au Maroc. Le partenariat va permettre à l'université d'utiliser les solutions de l'entreprise californienne dans le développement de nouvelles technologies pour surveiller la désertification et les changements climatiques. Ces outils sont aussi utiles dans l'océanographie, l'exploitation minière, l'architecture et l'urbanisation. L'alliance OPEP Plus se réunit demain pour décider d'une nouvelle augmentation de sa production et endiguer une surchauffe des prix. Les 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs 10 alliés disposent d'une importante marge de manœuvre pour accroître l'offre puisqu'ils laisseront encore sous terre près de 6 millions de barils chaque jour en juillet. Les investisseurs tablent sur une augmentation de 500 000 barils par jour à partir du mois d'août.
Merci Nathalie. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Un championnat fini sur les terrains mais qui se poursuit devant les instances. En République démocratique du Congo, c'est sur le fond de contestation que s'est clôturée la saison footballistique 2020-2021. Le dernier match ayant opposé V-Club à Lubumbashi Sport s'est soldé par un nul blanc. De Kinshasa, la correspondance de Valdo Simo Yamba.
Un dernier match qui n'a pas fait les affaires du V-Club puisqu'il est tenu en échec par Lubumbashi Sport, alors que le Dauphin Noir de Kinshasa s'est levé de l'emporter pour terminer en deuxième position au classement et jouer ainsi la Ligue des champions de la CAF saison 2021-2022. Un nul blanc synonyme de contre-performance qui a sorti l'entraîneur Ibengué de son retranchement au sujet de 9 points leur retranchés dans un litige administratif qui les oppose au cercle sportif Don Bosco par rapport à l'alignement du joueur Matutala pour double affiliation.
L'affaire n'est pas fini. Je ne vois pas comment on peut ne pas nous rendre nos 9 points. Tout simplement parce que moi, je suis le premier protagoniste. Je ne suis pas un tricheur, pas du tout. Et l'éthique du football doit l'emporter. On ne doit pas faire emporter autre chose que le football.
Allez-y comprendre qu'avec 9 points de moins, V-Club est 3e, 65 points, condamné à jouer la Coupe de la Confédération. Avec 66 points, Maniema Union hérite de la 2e place qualificative à la Ligue des champions de la CAF et en pole position avec 69 points, le tout-puissant Mazembe. Une saison qui se termine sur fond des contestations. V-Club espère toujours avoir gain de cause au niveau de la FECOFA. Kinshasa, Valdo Simo Yamba, VOA Afrique.
Des nouvelles de l'Euro, pas de match aujourd'hui et demain. Les derniers matchs des huitièmes de finale ont été joués hier. L'Ukraine s'est qualifiée pour les quarts en battant la Suède 2-1 après prolongation à Glasgow. Les deux nations s'étaient auparavant neutralisées lors du temps réglementaire 1-1. En quart, samedi à Rome, les Ukrainiens affrontent l'Angleterre qui a éliminé l'Allemagne 2-0. Un peu plus tôt, les affiches complètes des quarts de finale se présentent comme suit. Vendredi 2 juillet, on aura Suisse-Espagne à Saint-Pétersbourg et Belgique-Italie à Munich. Samedi 3 juillet, le Danemark joue la République tchèque à Bakou et l'Ukraine affronte l'Angleterre à Rome, comme je le disais. Tennis, cette ampleur après avoir joué seulement 6 jeux que Serena Williams a abandonné hier au premier tour de Wimbledon. La quête d'un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Margaret Court s'est arrêtée brusquement et douloureusement pour Williams. L'Américaine, qui aura 40 ans en septembre, a jeté l'éponge à 3-3 dans le premier set contre la Bélarusse Alexandra Sasnovich et est sortie du cours en pleurant et en boitant. Elle s'est ensuite éclipsée du stade sans passer en conférence de presse pour expliquer ses ennuis, déjà à 3-2 pour elle. Elle avait quitté le terrain et était revenue avec la cuisse droite enserrée dans un énorme bandage. Chez les hommes, Roger Federer, qui fêtera ses 40 ans le 8 août, a eu chaud, mais s'en est sorti face à un adversaire, Manarino, qui l'a considéré comme idéal, lui qui n'a que très peu joué depuis sa demi-finale à l'Open d'Australie début 2020. Ça passe aussi pour le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, qui a battu Jan Lennard Struff.
Merci, Yacouba. Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le conflit dans la région éthiopienne du Tigré entre dans une nouvelle phase. Les rebelles loyales au Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, ont repris le contrôle de la capitale régionale Mekele après 8 mois de combat. Addis Abeba a décrété un cessez-le-feu unilatéral et les autorités administratives ont fui la ville. Pour une analyse, Abdulrahman Dia a joint dans le sud-ouest de la France le docteur Patrick Ferras, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Je pense qu'il faut continuer quand même à être un peu prudent, car il y a toujours une guerre de communication entre le gouvernement fédéral et puis les Tigréens. Mais on voit quand même que les Tigréens parlent beaucoup plus aujourd'hui, donc ils ont plus accès à la parole et à la communication. Donc je pense que ce qui se passe est réel et que nous assistons vraiment à un tournant. Un tournant parce que les Tigréens ont repris leur capitale, hein, je précise bien leur capitale Mekele, en moins de 7 mois, tout en luttant contre l'armée éthiopienne, l'armée érythréenne et l'ennemi Samara. Alors, le gouvernement fédéral vient de décréter d'une manière unilatérale un cessez-le-feu inconditionnel, comme il l'appelle, mais en même temps, l'armée, a priori, est en déroute, fuit, et le gouvernement intérimaire a quitté la capitale Mekele et même la région du Tigray.
Alors, qu'est-ce qui, justement, pourrait expliquer ce renversement des rapports de force sur le terrain? Et comme vous le disiez tantôt, les forces fédérales éthiopiennes étaient appuyées par l'armée de la région d'Amara et les troupes érythréennes.
Tout simplement parce que les Tigréens sont attachés à leur terre et se battent. Quant à l'armée éthiopienne qui comporte surtout des éléments Oromo et Amara aujourd'hui, puisque les Tigréens ne font plus partie de l'armée éthiopienne, ils ne voyaient peut-être pas forcément l'intérêt d'aller se battre là-haut. Il y a sûrement eu des problèmes de commandement, de management, d'organisation. Et on voit bien, si vous voulez, que s'il n'y a jamais eu d'image, si l'on peut dire, de vidéo sur les combats, c'est qu'il y avait beaucoup de pertes de chacun des deux côtés. Et en même temps, si vous voulez, l'armée éthiopienne s'est considérée comme étant occupée avec la région Tigray, en occupant simplement les villes et les axes routiers. C'est ce qui fait que l'aide humanitaire ne pouvait pas être accédée dans une petite région, si l'on peut dire, du Tigray. Et on voit bien là que c'était un échec, parce qu'il faut plus qu'une armée, si on veut dire, si on veut maintenir des opérations de haut niveau et aller chercher des Tigréens qui étaient dans les montagnes. Donc ils avaient l'avantage du terrain, ils le savaient. Ne pas oublier que les Tigréens ont renversé Mengistu justement grâce à une guérilla de 17 ans. Donc il était à peu près clair qu'à partir du moment où ça commence à durer dans le temps, les Tigréens remporteraient une victoire, si l'on peut dire.
Et tout cela se passe dans un contexte électoral. On attend les résultats des élections législatives.
Ouais. Mmh. Oui, et c'est bien pour ça que, si vous voulez, que Abiy Ahmed comptait énormément sur les élections et leurs résultats pour reconquérir l'unité du pays, sa cohésion, relancer l'économie et faire de l'Éthiopie ce qu'il avait imaginé, et notamment dans son livre Mes deux mers, qui veut dire synergie en Éthiopie, en Amérique. Hein. Mais là, quel que soit le résultat des élections et leurs résultats, elles seront entachées par la défaite, si l'on peut dire, de Abiy Ahmed en région Tigray.
Une réunion du Conseil de sécurité pourrait se tenir ce vendredi à la demande des États-Unis, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Cette crise peut-elle être réglée de façon pacifique?
Ça sera difficile. Et je ne pense pas qu'il faille compter sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, tout simplement parce que les Russes et les Chinois bloqueront une demande quelconque de résolution. Même les États africains, les trois États africains, ce qu'on appelle le groupe A3, les avaient bloqués il y a à peu près un mois. Donc il ne faut pas compter sur les Nations Unies. Pas plus que l'Union européenne, pas plus que l'Union africaine.
C'était le docteur Patrice Ferras, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, l'opposition maintient sa marche pour dénoncer la situation sécuritaire dans le pays après le massacre de Solane qui avait fait au moins 132 morts. Le président Roch Marc Christian Kabore avait appelé dimanche à sursoir aux manifestations. Le Ballet Citoyen, une organisation de la société civile, a porté plainte contre le gouvernement pour non-assistance à personne en danger. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'opposition signe et persiste. Elle va marcher le week-end prochain pour dire non aux attentats terroristes. Elle dit ne pas être rassurée par le discours de Roch Kabore le dimanche dernier. Eddy Kombéou est le chef de file de l'opposition.
Nous avons relu et écouté le discours du président Kabore, nous ne voyons nulle part une main tendue. Nous avons des promesses vagues, creuses, et ce ne sont pas des promesses que nous attendons. Ça fait déjà 6 ans que le Burkina Faso vit l'insécurité. Les peuples meurent sans savoir pourquoi on les assassine sauvagement. Le cadre de concertation du chef de file de l'opposition s'est réuni lundi et à l'unanimité a décidé de poursuivre le combat à travers la marche silencieuse et la marche de protestation, la marche pacifique. Nous allons marcher jusqu'à ce que le gouvernement prenne conscience que les mesures doivent venir assez rapidement et que les attaques barbares doivent s'arrêter immédiatement.
C'est la marche de notre survie, c'est la marche de notre réveil, c'est la marche de notre quête de liberté et de notre quête de paix.
Lionel Bilgo, analyste politique sur Radio Omega, une radio locale ce mardi, affirme que la marche est bien symbolique et va au-delà de celle organisée par l'opposition.
Personne ne marche pour que les terroristes cessent leurs actions. Les marches sont faites pour réveiller l'exécutif, interroger l'exécutif et exiger de l'exécutif des actions et des changements dans la stratégie actuelle. Quand vous avez dans un pays un premier ministre qui va dire devant l'Assemblée nationale qu'il n'a pas de stratégie pour lutter contre le drame terroriste, ça veut dire vraiment que nous sommes tombés des nues, que nous sommes vraiment dans la boue. Je trouve que c'est dommage que ce soit une marche de l'opposition pour un problème qui concerne l'ensemble des Burkinabés. J'aimerais bien que l'on ne déplace pas la question.
Ce mardi, le Balai citoyen, un mouvement de la société civile, même si elle se démarque de la marche de l'opposition, a déposé une plainte contre le gouvernement pour non-assistance à personne en danger au regard des nombreux attentats terroristes. Smoke est l'un des porte-parole.
L'agenda gouvernemental est guidé par des préoccupations politiciennes et partisanes aux antipodes de l'urgence sécuritaire et au mépris de la souffrance du peuple. En effet, la priorité du gouvernement est de déployer son agenda de réconciliation nationale pour gaspiller les maigres ressources financières et promouvoir l'impunité. Il n'échappe à personne que cet agenda aventurier n'apporterait ni l'arrêt des attaques avec son cortège de morts, ni l'occupation du territoire, encore moins le retour des déplacés dans leur localité, car les causes sous-jacentes des attaques terroristes demeureront.
Le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti au pouvoir et ses alliés, dans une déclaration, je cite, dénonce fermement et met en garde contre les manœuvres politiciennes qui sous-tendent certaines manifestations dites spontanées, des agitations pour le moins incongrues et inopportunes qui, au regard de la situation que vit la patrie, ne sauraient dans aucun cas constituer une quelconque réponse au terrorisme. Bien au contraire. Les visées et les velléités putschistes des instigateurs de pareils mouvements sont évidentes et manifestes. Fin de citation. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Congo-Brazzaville, les États-Unis annoncent une nouvelle aide de 1,2 million de dollars pour aider les populations du Pool à se réinstaller après des années de conflits armés. Les autorités locales ont profité de cette occasion pour appeler les jeunes à retourner dans les villages du Pool pour pratiquer des activités agro-pastorales, notamment dans le district de Mayama, où s'est rendu notre correspondant Arsène Séverin.
La grande broussaille à l'entrée de Mayama, l'un des premiers districts du Congo, signifie que beaucoup d'habitants sont encore absents de cette localité qui comptait en temps de paix quelques 6000 âmes. Le sous-préfet Jean-Michel Aleba ne désespère pas. Il continue de lancer un appel au retour aux habitants qui ont fui le conflit armé, voici pourtant 5 ans.
Les jeunes sont partis. On ne sent pas encore, parce qu'il y a hésitation. Hein, parce que les gens n'y croient pas encore. Et il y a un petit changement parce que les gens sont en train de revenir, et tant bien que ce soit de manière timide.
Ceux qui sont de retour s'activent à cultiver la terre et à faire de la pisciculture. Le chef du groupement agricole Malandantiété Le Saint organise les paysans de Mayama autour des plantations de manioc.
Il y avait des jardiniers ici à Mayama qui faisaient sortir même par jour 10 caisses de tomates. Mais ce n'est qu'après un temps, il y a eu trop de...
La guerre.
Maintenant, là, si la paix peut maintenir, à Mayama, il y aura vraiment de bons travaux.
À Kingoï, les agriculteurs ont réalisé une bonne récolte de maïs grâce aux semences données par l'ONG française Acted. Les greniers sont pleins et les cultivateurs sont à la recherche des acheteurs. Francis Ochiarntela est le sous-préfet de Mindouli.
Ils ont travaillé, ils ont produit, ils ont de la peine à écouler les produits. Mais je sais qu'il y a des projets aussi qui mettent des chaînes de valeur qui pourront permettre de commercialiser ces produits-là. Les pêcheurs ont demandé que les moyens de travail soient les plus adaptés.
Pour aider la population à se réinstaller, acté de reconstruire des maisons abandonnées ou cassées pendant le conflit armé. Adrien Fulbert Mwanga et Henriette Mabouba Mangoudi sont habitants du village Kaunga.
Nous avons eu la chance de nous construire les maisons, mais les autres n'ont pas encore eu la chance de les construire.
Ce village,
Construire une maison, c'est très difficile aussi. Mais comme on nous a aidés, nous sommes vraiment très contents, très contents. C'est un cadeau pour nous, c'est notre goût aussi.
Une bonne partie de ces financements qui permettent à la population du Poule de se relever ou de retourner au bercail vient des États-Unis. Ce qui explique la visite de terrain de Hélène Thorburn, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis.
On vient d'annoncer encore un autre projet, une somme d'argent de 1,2 million de dollars pour la région de Poule, pour continuer ses activités et les assister. Parce que oui, c'est une région qui a besoin, qui avait des difficultés énormes. Il faut les aider.
Si la paix règne dans le Poule depuis la fin du conflit de 2016, la précarité, elle, constitue le lot quotidien de la population. De retour de Mayama, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Il y a 30 ans, c'était la fin officielle du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Les lois ségrégationnistes qui organisaient la domination de la minorité blanche ont été abolies le 30 juin 1991. Un an après la libération de Nelson Mandela. On retrouve notre correspondante Valérie Hirsch à Johannesburg.
L'Afrique du Sud reste la société la plus inégalitaire au monde selon la Banque mondiale. Même si ces trois décennies ont vu l'émergence d'une bourgeoisie noire, les inégalités raciales restent bien présentes. Plus de deux tiers des Noirs continuent à vivre dans la pauvreté contre seulement 1% des Blancs. Pour Mapula Minzi, une coach en bien-être, il y a eu des progrès, mais beaucoup reste à faire.
However, there are still a lot of challenges around employment.
Il y a encore beaucoup de défis à relever en matière de chômage, d'éducation, de logement et de santé. Le rapport de la Commission sur l'égalité en matière d'emploi montre que bien que les Blancs constituent 9% de la population économiquement active, ils occupent 64% des postes de direction.
Pour Trevor Koubé, un analyste financier, trois facteurs expliquent la trop lente réduction des inégalités raciales.
L'éducation, dont le niveau est très bas, et la faible capacité du gouvernement à gérer les institutions. L'argent public a été pillé par les agents de l'État.
L'ANC avait promis à tous une vie meilleure, mais selon une récente étude d'Oxfam, la plupart des femmes noires continuent à être sous-payées. Elles gagnent 460 fois moins que les hauts cadres qui restent en majorité des hommes blancs. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire après le retour de Laurent Gbagbo. Après Abidjan, l'ancien président ivoirien a eu droit à un accueil triomphal dans son village de Mama, près de Gagnoa. Son retour après son acquittement par la CPI suscite un espoir auprès de beaucoup d'Ivoiriens qui y voient un signe d'une possible réconciliation en Côte d'Ivoire. Presque au même moment, un autre ténor de la vie politique ivoirienne, Guillaume Soro, est condamné à perpétuité alors qu'il est absent du pays. Nous débattrons de tout cela ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOAafrique.com.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sevilla et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.